Autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et alors, oui, ah bah tiens, puisque pour pas oublier, la carte d'auditeur. Soit vous pouvez l'acheter à la librairie Publico, là, vous allez à la librairie Publico, entre Bastille et République, c'est rue Hamelot. Soit vous glissez un chèque d'au moins 20 euros dans une enveloppe. Voilà, l'enveloppe c'est Radio Libertaire, le chèque c'est DMC, l'enveloppe donc Radio Libertaire, 145 rue Hamelot, 75011, Paris, France. Et oui, c'est pas parce que je suis nationaliste, c'est parce que Radio Liberté est relayée par Internet, en principe, voilà, et que bah, les émissions, oui, sont mises en mémoire pour la semaine, c'est-à-dire que c'est l'émission bah, d'aujourd'hui qui efface celle de la semaine d'avant, voilà. Et puis alors évidemment avec Internet, eh bien c'est au niveau planétaire. Eh bien, on va continuer avec, bah oui, comme fil conducteur toujours Louise Michel, hein, voilà. Alors, bah elle a été condamnée donc à la déportation en Nouvelle-Calédonie, et ça c'était le 16 décembre 1871. Alors bon, il y a c'est 16 ou 18 hein, puisque il y a différents journaux qui donnent les deux dates hein, et Louise Michel n'est pas très précise non plus sur ce jour donc du 16 hein. Voilà. Et alors donc elle a été condamnée. Alors ça, bah, c'est en 1871 et elle va attendre août 1873 pour monter donc sur ce bateau qui va la conduire en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le bateau, bah, c'est la Virginie bien sûr. Il y aura 23 convois qui seront assurés par différentes, c'est des frégates hein. Et là donc c'est le 7e convoi, donc la Virginie. Et alors c'est toutes les femmes qui ont été condamnées à la déportation qui sont sur ce convoi, et il y a aussi donc Henri Rochefort donc qui fait partie de ce convoi. Et alors avant de parler de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on peut peut-être reprendre autour de l'amnistie. Voilà, puisque en fait les premières demandes d'amnistie donc pour les condamnés pour avoir participé donc au mouvement communaliste de 1871, eh bien ces premiers mouvements, par exemple, il y a Henri Brisson qui le 13 septembre 1871, donc avant même que soit fusillé donc Théophile Ferré, dépose un projet d'amnistie et il est soutenu par 47 parlementaires. 13 septembre 1871, pratiquement, il n'y a pas encore de jugements qui sont sortis des cours martiales, hein. Donc des conseils de guerre, évidemment l'amnistie pleine et entière, bah il faudra attendre le 11 juillet 1880 avec c'est ceux qui freinent des cas de fer, évidemment dans un premier temps ce sont bien sûr les monarchistes, et puis bien après il y aura ces républicains opportunistes qui verront d'un très mauvais œil le retour possible donc de ces socialistes révolutionnaires, puisque pour les élections donc de février 1871 à l'Assemblée nationale, il y avait cette liste à Paris notamment de socialistes révolutionnaires, donc ce sont les plus radicaux. Et alors l'amnistie, il y a grâce et amnistie hein. Alors bon, l'amnistie, l'origine remonterait à la démocratie grecque. Donc c'est au 5e siècle, oui, avant Jean-Claude, hein, J.C. pour certains, Jean-Claude, Jésus-Christ, enfin voilà. Ça va apparaître en France après la symbolique prise de la Bastille, l'amnistie, hein, donc avec la loi du 14 septembre 1791, qui est l'amnistie remplace donc le droit de grâce royal. C'est le parlementaire Jérôme Pétion de Villeneuve qui va monter à la tribune, donc devant les parlementaires, hein, le 4 juin 1791, et qui va justifier l'abolition de ce privilège de grâce, donc de le remplacer par l'amnistie. Et voilà ce qu'il déclare, entre autres. Mais que signifie donc une lettre de grâce? Où un homme est innocent, ou il est coupable? Si un homme est innocent, il n'a pas besoin de lettre de grâce. S'il est coupable, c'est une grande injustice que de lui faire grâce. Messieurs, qu'est-ce donc que le despotisme, si ce n'est le droit qu'a un homme de se placer au-dessus de la loi et de ne point obéir? C'est là la définition exacte du despotisme. 4 juin 1791, Jérôme Pétion de Villeneuve. Et puis va arriver cette Troisième République, hein, qui rétablit le droit de grâce au président de la République au nom du peuple français, l'amnistie restant de la compétence donc du vote de l'Assemblée. La grâce, c'est pour l'élu, donc qui représente la divinité, hein, puisque au nom du peuple français, pour moi, c'est rien d'autre qu'un changement donc de légitimation avec une idée de divinité, alors que l'amnistie, c'est une décision donc des représentants élus donc de ce peuple. On peut prendre ce qu'écrit le journal Le Figaro tout à fait récemment, puisque c'est de octobre 2007, autour donc de l'amnistie. Paradoxalement, c'est la Troisième République qui va dévoyer cette pratique. Les condamnés de la Commune de Paris bénéficient d'une procédure d'amnistie. La clémence pour les communards finit par être acceptée par une république bourgeoise qui n'en voulait pas. En décidant de voter une loi d'amnistie au lendemain de chaque élection présidentielle, la Troisième République rend de facto ce pouvoir au président. Et alors, là, évidemment, il est question d'amnistie avec la Troisième République, mais il y aura quand même cette commission des grâces, hein, qui va être montée, hein, et cela, bien, je vais en parler. Et avant donc de commencer donc cette longue série de projets de projets d'amnistie, donc ça a commencé le 13 septembre 1871 pour aller donc jusque en juillet 1880. Eh bien, on va écouter Jean Jaunas, voilà. On va découvrir ce qu'il dit Jean Jaunas. C'est encore plus ça parce que je vais encore me tromper dans le titre. Alors c'est pas la peine. Hein. Voilà, ça devrait partir. C'est parti.
Appelait ainsi pour ses nombreux voyages, vers des horizons neufs et des pays nouveaux. Sur ses pavés brillaient des soleils de passage, qui faisaient voir la nuit comme à travers de l'eau. Si je n'étais qu'un témoin, je n'avais pas moins de gueule. Les je t'aime c'était mort, mais je savais chanter. La musique c'est le credo de ceux qui restent seuls, et dans ces musiques-là il y avait de quoi naviguer. Le quai des amoureux, ma mère, le quai des amoureux. A vu bien des croisières, mon vieux, a vu bien des croisières et des bateaux restés à quai. On l'appelait ainsi pour toutes les découvertes de ces bateaux fleuris de mille serments d'amour, partis fendant la bleue, toutes voiles offertes. Équipage perdu dans un rêve trop court. Combien en aurais-je vu de ces appareillages? Du temps que c'était trop vrai pour qu'on ne puisse pas l'avouer. Je les voyais partir, matelots d'un autre âge, pour n'être plus qu'un point sur l'horizon fermé. Le quai des amoureux, ma mère, le quai des amoureux. C'était le bout de ma terre, mon vieux. C'était le bout de ma terre et des espoirs qu'on y paumait. On l'appelait ainsi pour ses cœurs en détresse et ses retours mouillés de larmes dans les yeux. Si eux ne me disaient rien, je me répétais sans cesse. Je vous disais au revoir quand vous me disiez adieu. Combien le fond de la mer fait-il danser d'épaves qui en perdant leur route ont rencontré la mort. Les seuls qui revenaient étaient beaucoup moins braves qu'à leur départ chantant toute voile dehors. Au quai des amoureux, ma mère, au quai des amoureux, il y pleuvait hier, mon vieux, il y pleuvait hier, et le silence m'enveloppait.
Oui, voilà, Jean Jonas.
Jean Jonas, c'est donc...
Oui, Jean Jonas, je ne sais pas quel titre c'était puisque nous parlions. Eh bien, donc oui, on est à ce 13 septembre 1871 et autour de ce projet d'amnistie, donc déposé par Henri Brisson. Il est soutenu par 47 parlementaires. Le projet, évidemment, va être enterré, et pour enterrer un projet, rien de mieux qu'une commission. Bien sûr, donc une commission va être créée, et ça va être le rapport de Peyre du 16 juillet 1872. Donc on voit pratiquement plus de 6 mois pour donner un résultat qui dit que ben non, on fait pas. Brisson. Cet Henri Brisson a été élu député de Paris aux élections complémentaires de 1869, donc opposant à l'Empire. Il va être nommé adjoint d'Étienne Arago, maire de Paris, Étienne Arago, le 4 septembre 1870, donc évidemment à la déchéance de l'Empire, hein. Et donc il va démissionner avec Étienne Arago, à pas confondre avec Emmanuel Arago. Ils vont démissionner à trois, donc Étienne Arago, Henri Brisson et Charles Floquet, suite donc à l'émeute du 31 octobre 1870, cette journée des tables et des chaises, hein, où chacun monte sur une table pour proclamer la commune, donc à l'hôtel de ville bien sûr. Et alors, ça s'est pas fait. Enfin bon, ça a duré quoi, 1 heure, 2 heures. Et donc, Étienne Arago l'a vraiment pris peur. Il va démissionner et c'est Jules Ferry qui va le remplacer. C'est là que Jules Ferry va prendre déjà le surnom de Ferry l'affameur, hein, c'est le siège. Après, ça va être Ferry le répresseur, hein, avec donc la répression de janvier 1871. Et puis après, il va prendre Ferry Tonquin, hein. Alors ça, c'est un peu plus tard, avec l'affaire de Long San. Fausse affaire, du reste, montée par Clémenceau pour se débarrasser donc de Jules Ferry. Et alors... cet Henri Brisson va être élu député. Il va siéger à Versailles. Il soutient pas la commune, bien qu'il soit partisan de l'éducation primaire obligatoire et qu'il se déclare parfaitement anticlérical. Il va même du reste devenir président du groupe de l'Union républicaine, puis il va passer président de la commission du budget en 1879, et puis il va être président de la Chambre des députés à partir du 3 novembre 1881, en remplacement donc de Gambetta. Il va tenir cette présidence de la Chambre des députés jusqu'en mars 1885, où il va devenir président du Conseil après la démission de Jules Ferry. Donc on voit, il passe à peu près derrière tous ceux qui se sont fait, disons, casser la figure, parce qu'il devenait quand même un petit peu trop encombrant. Mais ça, c'est tout le problème des opportunistes. Alors, c'est Henri Brisson. Très intéressant, justement, avec ce premier projet d'amnistie, avant que les condamnations tombent, hein, 13 septembre 1871, et il est né à Bourges, un 31 juillet 1835. On garde une phrase de lui. « Gardez-vous de vouloir faire grand, combien de ceux qui s'y sont essayés ont rendu la France plus petite ?»
Voilà. Alors, on comprend un peu pourquoi il pense derrière Gambetta, pourquoi il pense derrière Jules Ferry. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai pris cette phrase de lui, puisque bon, ça, je pense que ça l'illustre très bien. Alors, il est opposant, disons, à l'Empire. Il est opposant, donc, aux monarchies, bien sûr. 1856-57, il collabore à un journal italien qui s'appelle La Ragione. Donc, c'est un journal de philosophie religieuse, politique et sociale. Elle a été fondée, donc, à Turin. Au rang des collaborateurs donc de ce journal italien, La Ragione, on trouve Charles Renouvier, Louis de Potet, Edgar Quinet et Louis Blanc. Donc on voit, c'est pas tout à fait très net, hein. Renouvier, Quinet, Louis Blanc. Brisson va y publier donc, et ça c'est son œuvre lui, Lettres sur le mouvement littéraire et philosophique français. Et puis après, il va donc aussi écrire pour la Revue philosophique et religieuse avec Émile Littré, encore avec Renouvier, Amédée Guillemin, Élisée Reclus et Charles Fauvetti. Donc on voit, c'est très très mélangé, hein. Alors évidemment, Littré, on est avec, on est dans cette espèce de nouvelle religion, hein, avec Arthur Comte, hein, le positivisme, hein, puisque c'est Littré qui prendra la suite d'Arthur Comte, hein, Renouvier, bon, voilà, Élisée Reclus, ah, la famille Reclus, là, évidemment, là, c'est tout à fait autre chose, hein. En 1859, Henri Brisson avec Frédéric Morin va contribuer à la création donc d'un journal qui s'appelle Le Progrès de Lyon. Alors évidemment, ce journal est très hostile à l'Empire, hein, comme par hasard, Lyon, hein, 1859. Et donc dedans, il y avait la correspondance parisienne. Voilà. Alors évidemment, cette correspondance parisienne va pas du tout plaire au préfet du Rhône, et il va y avoir donc une censure, et il arrêtera donc de faire paraître sa correspondance parisienne dans ce Progrès de Lyon. 1861-65, Brisson va aussi écrire pour un journal, Le Phare de la Loire. Alors, il est toujours donc dans les analyses politiques, et il fait aussi dans la critique littéraire. Il va faire un voyage en Égypte, et là il fait paraître donc dans la Réforme littéraire une série de lettres intitulée Au bord du Nil, mêlant charme descriptif et pensée philosophique. Il va publier également dans la Revue littéraire du mois, qui paraît à Lille, un article sur les brochures qui venaient de faire paraître Ernest Renan et Charles Lemonnier. Alors évidemment, Renan aussi, hein, c'est la trajectoire de Renan est très, moi je dirais chaotique. Enfin, le 30 mai 1864, il rentre au journal Le Temps. Alors Le Temps, bah oui, c'est Auguste Nevzer, hein. Il va rester au journal Le Temps jusqu'en 1869. Au point de vue politiquement, Brisson va être de ceux qui signalent le danger de l'expansionnisme de la Prusse, hein, donc avant cette bataille de Sadowa. 1866, presque tous les écrivains du Parti républicain se prononcent pour la Prusse contre l'Autriche. Au mois de mai 1869, Henri Brisson quitte Le Temps pour entrer à l'Avenir National, donc l'Avenir National qui est dirigé par Alphonse Perra. Et il va rester donc à l'Avenir National jusqu'à la guerre de 1870. Alors Alphonse Perra, c'est pas neutre, hein, puisque pratiquement, c'est lui qui tenait l'hôtel de ville, hein, Alphonse Perra, au 4 septembre 1870, puisque parmi les rédacteurs donc de l'Avenir National, donc le républicain entre guillemets, hein, Alphonse Perra, qui disons est assez obscur, hein, parce qu'il n'est pas en première ligne, hein, mais pratiquement il a placé tous ses pions à l'hôtel de ville, alors à des postes pas de décisionnaires, mais des postes qui font que c'est possible de bloquer des décisions, hein. Donc Alphonse Perra va tirer les ficelles à l'hôtel de ville pratiquement pendant toute la période donc de la guerre franco-prussienne, donc du siège. Voilà. Et alors, bah, on voit que Henri Brisson est aussi donc dans cette mouvance. Alors. Brisson, c'est là où ça, ça évolue. Brisson va fonder avec Alexandre Massol la Morale indépendante. Le premier numéro de ce journal va sortir le dimanche 6 août 1865, donc c'est un hebdomadaire, hein. Et alors, en fait, c'est une extériorisation c'est une extériorisation de ce qui se passe dans certaines loges maçonniques. Voilà. Et alors, bah, le but, c'est d'opposer la morale humaine. Hein, nous sommes en 1865. Hein, morale humaine progressive, hein, pas confondre avec progressiste. Hein, donc progressive à la morale théologique, donc imposée par l'Église et en plus de ça, reprise par Napoléon III, qui de toute façon va trouver un soutien du côté de l'Église catholique, alors qu'au départ, c'était pas tout à fait ça. De 65 à 67, donc Henri Brisson va publier des articles, disons de polémique, hein, de critique. Hein. Il va aussi faire de la critique littéraire. Alors ce journal n'est pas neutre, hein, puisque par exemple il est dit que le père Hyacinthe. Alors Hyacinthe, c'est celui donc qui à l'époque prêchait, qui faisait les sermons de carême à Notre-Dame de Paris. Et alors, il semblerait que pour ces conférences-là de 65 et 66, 1865-1866, il se soit tout à fait inspiré donc de cet Henri Brisson. Voilà. Donc c'était pour combattre ce qu'écrivait Henri Brisson. Hein. C'était une réponse. L'autre du haut de sa chair combattait ce qui était écrit donc dans le journal dans les articles qu'écrivait Brisson donc dans cette morale indépendante. Henri Brisson, en 1er février 1866, entre à la Revue nationale et étrangère. Qui est fondé par Gervais Charpentier. Henri Brisson, on le voit, sera toujours dans les journaux dits libéraux, hein, c'est-à-dire le mot libéral à l'époque n'a pas le même sens qu'à l'heure actuelle, hein, c'est journal qui prône une certaine liberté. Tout au moins individuel, et donc aussi autour donc des analyses littéraires. Voilà, on est toujours avec un petit peu autour de cela avec cet Henri Brisson. Dedans, on trouve Édouard Laboulay, Pierre Lanfray, Eugène Desfois. Donc là, Brisson va écrire des articles contre la Prusse. Et c'est lui donc qui va s'occuper de la chronique politique quand la Revue nationale va devenir donc hebdomadaire. Il va aussi donc écrire pour le journal Le Siècle. Il va préfacer quelques ouvrages, hein, notamment l'Angleterre et ses institutions. En 1868, il va participer donc au lancement de la Revue politique et littéraire. Et voilà, donc 68, hein, Revue politique et littéraire avec Gambetta, Chalmers Lacour, Alain Targé, Clément Laurier. Alors Chalmers Lacour, Targé, Clément Laurier, Alain Targé, on va les retrouver donc au 4 septembre dans les allées du pouvoir, hein, soit comme maire d'arrondissement, soit comme vague membre de ce gouvernement dit de la défense nationale. Évidemment, Gambetta, lui, va le 4 septembre, va s'octroyer la part du lion en s'auto-proclamant, en se nommant ministre de l'Intérieur. Donc il va tout de suite changer les préfets, hein, qui sont pas à sa botte. Tous les préfets impériaux, il va les virer et les remplacer donc par ses amis. Hein, voilà pour Gambetta. Pour revenir à Henri Brisson, il va écrire des articles sur Dufour dans la France Nouvelle. Il va aussi participer à la souscription pour le monument à Baudin. Et alors ce dernier article va lui valoir une procédure. Alors Henri Brisson a fait des études de droit, il est avocat, il va se défendre, mais il va être condamné. Il faut savoir que, bah oui, l'affaire Baudin, c'est là que Gambetta s'est fait connaître, en défendant notamment Charles de Lécluse. Baudin, bon, c'est ce parlementaire, lors du coup d'État donc du 2 décembre, hein, monté par Napoléon III, qui, à l'entrée du... À l'entrée donc du faubourg Saint-Antoine, devant des manifestants, dit vous voulez voir comment meurt un élu du peuple, voilà. Alors bon, il y en avait plusieurs qui devaient venir parce que c'était prévu, notamment Victor Hugo devait être là. Alors Victor Hugo, bah comme par hasard, va arriver en retard. Il va arriver quand Baudin bah, aura été donc tué par un soldat sur cette barricade. Alors Baudin a été inhumé tout à fait discrètement, c'est moins qu'on puisse dire, au cimetière Montmartre, et puis disons les opposants à l'Empire vont finir par trouver donc vont faire de Baudin un martyr de Napoléon III, et on va essayer de retrouver la tombe de Baudin et de Lécluse, notamment dans son journal Le Réveil, c'est lui qui va dire où est la tombe, et puis on va faire une petite cérémonie autour de la tombe, et là évidemment provocation policière, ça c'était sous le Second Empire, hein, provocation policière, arrestation, condamnation de Lécluse, premier responsable va être condamné, son défenseur Gambetta, et c'est là que Gambetta, disons, va rentrer en politique, et c'est lui-même qui le dira, hein, c'est avec l'affaire Baudin, donc, qu'il a mis le pied à l'étrier. Et on voit que Henri Brisson, lui aussi, est rentré en politique avec cette affaire, avec ce nom de Baudin, cette affaire Baudin. Alors évidemment, c'est pas du tout comme Gambetta, parce que Gambetta n'était qu'avocat. Brisson, lui sera condamné. Alors, il s'est défendu, il était avocat aussi, mais Gambetta n'a pas été condamné puisqu'il était le défenseur, alors que Brisson, a été condamné. Alors, pour terminer avec cet Henri Brisson, le 3 mai 1883, en présence donc de Jules Ferry, Henri Brisson inaugure à Vierzon la première école nationale professionnelle, ENP. Alors, première école nationale professionnelle, bah oui, c'est dans les propositions de la Commune, hein, avril-mai 1871, à Paris. Hein. Et alors, ce lycée donc à Vierzon, donc ce lycée professionnel à Vierzon, porte actuellement le nom de lycée Henri Brisson. Voilà, on aurait pu s'en douter. Enfin, voilà, c'est autour donc de cet Henri Brisson qui on le voit est parti. Faisait donc dans la critique littéraire, un petit peu dans la polémique politique, et qui est apparu donc sur la scène politique avec cette affaire Baudin. Eh bien, on va continuer avec Johan Jonas. Ça devrait partir.
La pluie a mis ses chaussons mouillés, la saison meurt au bras des nuages, l'automne se noue aux arbres givrés, comme un vieux copain qui rentre de voyage. C'est la pluie qui tombait ce tantôt, le ciel gris a tiré ses rideaux, voici le sommeil et ses grands rivages, viens dans ma bouteille, on y fera naufrage. Le vent s'affiche et dans ses vitrines, on voit l'hiver qui fait des grimaces, comme un pantin que l'on imagine, pendu aux ficelles quelque part dans l'espace. danse. C'est la neige qui t'embaisse tantôt. Comment vais-je retrouver mon troupeau pour que son sommeil m'emmène en voyage? J'ai trop de soleil, alors on partage. Comme un corbeau qui tourne dans mon âme, seul tout en haut, le printemps nous regarde. Un vieil oiseau dans un regard de femme, il fait un raccord, se fait belle et s'attarde. C'est la joie qui tout cesse tantôt. Revoilà tous mes amis Pierrot. Dis, prête-moi pour une heure tes plumes. J'ouvre pour toi ma porte et mon costume.
Jean Jonas, et c'était donc fin de saison, Jean Jonas. Eh bien, oui, autour des amnisties, hein, y a pratiquement que les familles concernées qui se battent pour obtenir soit des commutations, l'amnistie. Les élus de droite qui doivent leur siège aux ruraux entre guillemets, ont tout intérêt à diaboliser les condamnés. On les fait passer pour des bêtes fauves. Hein. Les républicains, type Ferry, Clémenceau, Gambetta et combien d'autres, établissent une république sans républicains. Et voilà ce qu'écrit le comte de Gobineau. Il le confirmera, mais plus tard, hein, pratiquement 12 ans plus tard, puisque c'est en 1883, ce qu'écrit donc le comte de Gobineau, qui en 1850 a écrit de l'inégalité des races. Hein. La république en France a ceci de particulier que personne n'en veut et que tout le monde y tient. Il y a qu'à voir ce que dit Thiers autour de la République. Hein. C'est une trop mauvaise fille pour que je l'épouse. Il y a tout un tas de trucs. Hein. Je suis, il se déclare monarchiste, orléaniste, mais républicain, bien sûr. Il y a des déclarations autour de cela. Donc on se rend compte que le point de départ de cette Troisième République est parfaitement douteux. Et autour donc des amnisties ou des commutations, c'est remarquable, c'est à noter, de voir que c'est Henri Brisson donc qui le premier, avant que les condamnations tombent, parle donc d'amnistie pour les participants donc au mouvement communaliste de 1871. Le 2 novembre 1871, c'est le jour des morts. Des personnes vont passer devant ce qui s'appellera plus tard le mur des fédérés. Bien sûr, impossible de s'arrêter, la police ou l'armée est omniprésente, donc on perd la chaise. Les plus ingénieux passent, marchent et laissent tomber des graines de fleurs sur le sol, dans l'espoir qu'elles feront des fleurs au printemps. C'est pour remplacer les gerbes de fleurs, hein. Donc on laisse tomber quelques graines, voilà. Il s'agit bien de la première manifestation du souvenir de la Commune, 2 novembre 1871. La presse n'en parle surtout pas. Mais le 19 novembre, le journal Lyon va obtenir 70 signatures pour une amnistie. Donc on voit que au travers des journaux, mais on peut quand même considérer que ce mouvement, ce courant autour donc des demandes d'amnistie, hein, des commutations part bien souvent de loges maçonniques, hein. C'est absolument évident. Le 23 novembre 1871, le journal L'Indépendance belge va terminer un article en faveur de l'amnistie, et voilà ce que l'on peut lire. On ne voit dans les jardinets, à Paris bien sûr, si soignés autrefois de Belleville, que des femmes sombres et des nuées d'enfants déguenillés et maigres. La rareté des hommes dans ce coin de Paris est réellement effrayante. Quand donc une amnistie repeuplera-t-elle les banlieues désertes et les ateliers fermés? 23 novembre 1871. Il faudra attendre quasiment 8 ans et demi pour qu'il y ait cette amnistie pleine et entière qui arrive. Mais combien, disons, vont décéder? Combien vont faire souche dans le pays d'accueil et ne reviendront pas? Le journal La Constitution va publier un article sur l'exécution du journaliste Gaston Crémieux au chantier du Pharo, hein, à Marseille, donc pour sa participation à la Commune de Marseille. Ce journal relate aussi la censure donc d'un autre journal qui s'appelle La République de l'Hérault, qui a critiqué l'exécution de Rossel, et ça le 28 novembre 1871. Donc exécution de Rossel avec Théophile Ferré, hein, bien sûr. Mais bon, Rossel est peut-être plus présentable que Rossel, un polytechnicien, hein, est peut-être plus présentable évidemment que Théophile Ferré, beaucoup plus impliqué dans les idées communalistes. On lit aussi un reportage sur une manifestation d'étudiants du lycée Condorcet, qui était qualifié donc de tapage révolutionnaire par, disons, ce qu'on appelle les monarchistes ou les bonapartistes, hein, à Paris. Il y a aussi ce discours de Gambetta, Gambetta, très habile, puisque on l'a vu, il a démissionné donc du ministère de l'Intérieur, hein, quand la Chambre s'est déplacée à Bordeaux avant qu'il revienne à Versailles. Alors Gambetta, au lieu de remonter donc à Versailles, il a pris le sud, hein, et il a passé la frontière espagnole. Il va passer toute la période de la Commune à Santander. Donc, lui, il va garder les mains propres. On va voir, il y en a un qui a participé, par exemple, c'est Boulanger. Lui, il a participé à la répression de la Commune. Il a été blessé, du reste, comme soldat versaillais. Il a été blessé au Panthéon pendant la Semaine sanglante. Et alors, très curieusement, il exhibera sa blessure en se faisant passer pour victime de la répression. On voit que, Gambetta est un très habile politicien. Gambetta qui est parti en ballon, hein, pour rejoindre ce gouvernement provisoire, cette délégation du gouvernement de la Défense nationale à Tours. Il est parti en ballon. Puis en fait, il se rend compte que là, on va se fourvoyer, et donc il est élu député le 8 février dans plusieurs circonscriptions, et comme par hasard, il va prendre une circonscription d'Alsace-Lorraine, hein, comme ça, sachant que de toute façon, ça va être annexé à la Prusse, donc il perd son siège de député tranquille, il pourra passer comme victime, et il va revenir donc après l'écrasement de la Commune. Gambetta va revenir à Paris en juillet-août 1871, et puis là il va recommencer à faire ses discours, et voilà donc sa déclaration. Oui, je pressens, je sens, j'annonce la venue et la présence dans la politique d'une couche sociale nouvelle qui est aux affaires depuis tantôt 18 mois et qui est loin, à coup sûr, d'être inférieur à ses devancières. Alors quand il dit ça, il parle pas de ceux qui ont été impliqués dans les mouvements communalistes. Non, bien sûr que non. Là, on se rend compte, cette couche sociale nouvelle, c'est ces républicains opportunistes, bien sûr. Et Gambetta, en juin 1880, va être un opposé forcené à toute possibilité donc amnisties. Et oui, il faut que cette Troisième République reste dans les mains donc de ces républicains opportunistes, mais surtout pas dans ceux qui ont ce relent de socialistes révolutionnaires. C'est bien ces républicains opportunistes qui ont conduit au désastre du siège et aussi au massacre donc des fédérés, tant à Paris qu'en province. Les survivants vont être tenus à l'écart donc par l'équipe républicaine, et cela jusqu'à l'amnistie pleine et entière de 1880. Eh bien, on va continuer avec Jean Genors.
T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures ce que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées. Lorsque t'en as, tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne, crée pas tout, et de la pèlerine et rien en dessous. De la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris. Bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? T'es les flics de Paris, t'es les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te serre le cou, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantois, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bouchent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris.
Eh bien oui, c'était Flic de Paris, hein, évidemment, avec Jean Genos, c'est facile de retrouver les titres, hein, Flic de Paris. Ouais. Donc le mouvement d'émancipation est bien stoppé, hein, 40 000 personnes massacrées. Les seuls à combattre l'hégémonie catholique seront d'autres religieux pratiquement, hein, les plus acharnés, donc les juifs et surtout les protestants, avec cette idée de laïcité, puisque quand même Émile Littré fait apparaître le mot laïcité en août 1871. C'est le même mois que Bakounine, en Suisse, réfugié en Suisse, déclarait donc l'abolition de l'Église et de l'État. Moi, je suis obligé de faire le lien entre cette abolition de l'Église et de l'État et la laïcité. La laïcité, donc, pour les religieux, c'est un espace de liberté. En aucun cas, la laïcité ne peut être acceptée comme une émancipation de l'individu, évidemment, l'émancipation de tout dogme, hein, qu'il soit politique, philosophique, religieux, économique, quoi que ce soit. C'est l'émancipation de l'individu, la laïcité. Et alors, on va voir donc, par exemple, ce pasteur protestant, Edmond de Pressensé, ancien orléaniste, qui est élu député républicain en juillet 1871, donc aux élections complémentaires, hein, du 8 février, avec l'appui d'un Adolphe Thiers. Et oui, à cette époque, les protestants monarchistes étaient bien souvent orléanistes. il y avait très peu de différence entre un républicain modéré et un orléaniste. Et du reste, ça va être tout le travail de Gambetta de faire passer donc les orléanistes du côté de la République. Sur 28 députés protestants qui siégeaient donc à l'Assemblée en 1872, on note 6 extrêmes gauche, 10 de centre-gauche et 7 de centre-droit, et puis quand même, on va trouver un bonapartiste. Grévy, par exemple, va être élu président de la République le 30 janvier 1879. Le protestant Waddington va se retrouver président du Conseil du 4 février au 28 décembre 1879. Sur 9 ministres, 5 se revendiqueront protestants. Donc dans ce gouvernement Waddington, Élie Le Royer, Léon Say, Jean-Bernard Jaurès-Guibéry, Delsols de Freycinet. On comprend mieux les reculades des républicains opportunistes s'appuyant sur les catholiques de gauche que des minorités religieuses déportées de la commune étant en majorité anticléricaux. En 1875, l'État, la Troisième République, nomme Prisbuer gouverneur, gouverneur, et voilà, en Nouvelle-Calédonie, et voilà ce qu'écrit Lissagaray. Ce renégat du protestantisme envoyé en Calédonie par les influences jésuitiques du Sacré-Cœur trouva le moyen, avec des allures doucereuses, d'aggraver la misère des communeux. Il fut assisté par Monseigneur Anastasiopoulos, évêque de Nouméa. En réalité, à partir de cette époque, les simples déportés vécurent sous le régime de la faim, avec la faculté de se mouvoir. Et oui, puisqu'il y a eu, théoriquement, voilà, Jaurès-Guibéry, Prisbuer arrive là, en principe, il atténue donc les restrictions de circulation. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus donc en enceinte fortifiée, en prison, l'État français, la Troisième République a pu à vous nourrir. Donc vous pouvez vous déplacer, mais charge à vous de vous débrouiller pour vous alimenter, vous vêtir, vous abriter, manger. Voilà, et c'est bien ce que écrit donc Lissagaray. En réalité, à partir de cette époque, et on voit bien encore toute l'habileté donc de cette sensibilité protestante, qui, disons, d'un côté donne la liberté, mais la fait payer très très cher. Les simples déportés vécus sur le régime de la faim, avec la faculté de se mouvoir. Voilà, c'est le résumé donc qu'en fait Lissagaray. 1879, Thierry Foch publie une brochure de 16 pages. Le titre, c'est « Amnistie, plus d'état de siège ». Et là, dans cette brochure, il appelle à un mouvement immense en faveur d'une ère de concorde et de paix. C'est un argument, du reste, que reprendra Victor Hugo dans le journal Le Rappel et aussi le journal Le Temps, datés tous deux du 5 avril 1873. Et là, Victor Hugo écrit « Naîtra l'apaisement ». D'où naîtra la réconciliation. Donc tout cela, évidemment, c'est autour de l'amnistie avec l'argument donc de la réconciliation. Alors Thierry Foch, Thierry Foch, encore un franc-maçon. Alors évidemment, lui, pendant la Commune, c'est lui donc qui a engagé une partie de la franc-maçonnerie, des francs-maçons, c'est pas si simple que ça, une partie donc des francs-maçons à soutenir la Commune. Il a quand même une manifestation. Donc, il se dit, c'est Lissagaray qui le dit, mais confirmé par Louise Michel et aussi par d'autres, 6000 francs-maçons donc qui défilent fin avril dans Paris. 6000 dans Paris, Paris assiégé, 6000, c'est énorme. Et alors, mais plus la victoire versaillaise va se confirmer, plus l'état-major, plus la structure donc des francs-maçons va se mettre du côté versaillais pour aller jusqu'à condamner donc cette criminelle sédition. Et ça, c'est le grand maître du Grand Orient de France qui déclara ça en pleine semaine sanglante. Alors évidemment, c'est pas encore n'importe qui, ce Babeau Larivière, c'est un sous-préfet, donc sous-préfet de Charente, qui condamne donc la Commune. Alors peut-être on peut peut-être dire quelques mots sur sur Thierry Foch. J'en ai assez long. Au moment donc il est né à Lille en 1814. Il va décéder à Lille en 1900. Il est donc tailleur et puis il va être professeur de coupe. Donc tailleur dans la couture, hein. Donc et il va donc Émile Thierry Foch va être initié donc le 9 janvier 1850 à la loge Jérusalem écossaise donc du Suprême Conseil. Alors faut voir ce qui est écrit, c'est très intéressant donc ce Suprême Conseil. Par exemple ce qui écrit Gustave le Français, lui c'est la loge 133. 133 c'est encore très codé, hein. Puisque c'est pas la 133e, non, c'est 100 SANS 33e degré, c'est-à-dire les hauts grades, ce qui s'appelle les hauts grades, voilà. Alors évidemment, cette loge de Gustave le Français, qui a viré le grand architecte de l'univers, donc l'invocation du grand architecte de l'univers aux alentours de 1865, va être fermée, évidemment, par la structure. Hein. Faudra attendre 1878 au Grand Orient pour que le pasteur Frédéric Desmond, pasteur protestant, fasse, disons, abolir l'invocation au grand architecte de l'univers. Voilà. Encore donc un protestant, mais c'est pour ça la laïcité à cette période, on tire dessus comme à l'heure actuelle du reste. Hein. À l'heure actuelle, on rajoute des qualifiants derrière, hein, laïcité ouverte, laïcité plurielle, laïcité à la française, on entend à l'heure actuelle. C'est assez étrange. Hein. Et donc pour continuer donc avec Émile Thierry Foch, il est de sensibilité au moins socialiste, hein. Il présente en mars 1869 un projet de réforme donc de ce Suprême Conseil, évidemment qui a rejeté. Il défend vainement le maintien de la croyance en une puissance infinie désignée sous le nom de grand architecte de l'univers. Ah bah oui. En 1870, donc Émile Thierry Foch rallie la loge naissante le libre examen, destiné à regrouper des déistes rationnels. Alors là, on est un petit peu aussi dans la sensibilité donc d'Auguste Comte, hein, bien sûr. La guerre éclate, hein, juillet 1870, hein, Paris est assiégé. Le 29 octobre 1870, un rassemblement de 2000 francs-maçons à Paris, c'est énorme, donc pour la mise en jugement maçonnique du roi de Prusse et de son fils accusé de crimes de guerre. On a un col favru donc qu'on retrouvera donc au Grand Orient de France. Hein. Du reste, dans les affiches ou dans les déclarations, il y a des noms qui apparaissent. Et bon, on peut quand même considérer que pratiquement entre la moitié, entre 50 et 75% des délégués à la commune étaient francs-maçons, ou l'ont été, ou le seront. C'est assez curieux de le voir. Alors bon, certains noms subsistent, hein, évidemment, mais quand on regarde bien, on se rend compte que le mouvement de la commune de Paris, et aussi en province, bien sûr, sort pratiquement de certaines loges maçonniques, et encore, évidemment, on se rend compte, pas toutes, hein, attention, c'est pas si simple que cela. Hein. Thierry Foch est considéré comme un vieillard, hein. Évidemment, il est né en 1814, hein, nous sommes en 1870. Hein. Le 26 avril 1871, c'est lui qui organise cette réunion donc des francs-maçons autour des conciliations. Et oui, c'était la période des conciliations entre Paris et Versailles. Donc on faisait des allers-retours. Des fois, il y en avait deux par jour. Et du reste, on verra Brisson, hein, Perra aussi, hein, avec ses courants. Alors certains accusent les conciliateurs d'avoir fait perdre du temps à la commune, puisque on croyait qu'on allait trouver une solution. Et puis en fait, pas du tout. Pendant ce temps-là, Thiers ne demandait pas mieux qu'il y ait donc des allers-retours. Lui, ça lui permettait de créer sa plus grosse, la plus belle armée que la France ait jamais possédée, hein, c'est le mot même de Thiers, hein. Donc, et alors il y a cette manifestation donc d'avril, hein, de fin avril, donc sur les remparts, manifestation du 29 avril. Alors il y a déjà la réunion, on se rencontre déjà à l'hôtel de ville. Là, Thierry Foch reçoit le drapeau rouge. Hein, en principe, c'est Jules Vallès qui doit lui donner, avec en disant qu'il va les mettre donc sur les remparts. Hein, et si jamais ce drapeau est percé, bah ça y est, ça sera considéré comme une déclaration de guerre des Versaillais, une profanation donc des Versaillais sur des emblèmes maçonniques. Donc, il pense que de cette façon, la majorité, voire la totalité des francs-maçons vont suivre. Hein. Donc Thierry Foch va prendre la parole pour annoncer le ralliement de la maçonnerie à la commune, mais là évidemment c'est pas si simple que ça, hein, c'est de certains francs-maçons, pas tous, hein, et on va voir que c'est pas simple du tout, puisque il y a des francs-maçons versaillais, c'est pas si simple que ça. Et alors il est l'un des trois délégués qui va rencontrer Thiers. Alors bon, ça reste très ambigu, hein, cette affaire des trois qui vont réussir, donc qui ont obtenu donc cette cessation de feu, hein, et qui vont donc se rendre à Versailles. Il y en a trois, en principe il y en a que deux qui sont arrivés à Versailles. On n'est pas tout à fait d'accord donc sur les noms. Enfin, toujours est-il que après la semaine sanglante, donc Thierry Foch va se réfugier à Bruxelles. Faut savoir que la structure, donc les conseillers de l'ordre du Grand Orient de France et le Grand Maître a condamné cette criminelle sédition. C'est la Commune, la criminelle sédition. Hein. Donc évidemment, il va se faire virer. Tous ceux qui ont participé vont se faire virer du Grand Orient, hein, de différentes manières. Du reste, hein, pour défaut de présence, évidemment, ça à partir du moment où ils sont plus à Paris, ils peuvent plus venir. Pour défaut de cotisation, hein. On dit capitation, je crois. Donc on va voir. Mais par exemple, il y a encore une influence, puisque on peut quand même considérer que l'évasion donc d'Henri Rochefort a été montée par des francs-maçons qui étaient en Nouvelle-Calédonie, hein, puisque bon, c'est absolument manifeste. Hein. Voilà. Et alors. Il va être condamné donc par contumace, hein, le 18 juin 1875 à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il va être amnistié, donc c'est une grâce, hein, le 17 mai 1879. Donc il va revenir à Paris. En 1884, toujours Émile Thierry Foch, hein, présente devant l'éloge du Suprême Conseil un rapport en faveur de la propagation des tenues blanches comme noyau, moyen d'acheminement vers l'initiation de la femme. Eugène Potier, qui devait être reçu dans sa loge, va mourir en 1887, juste avant donc la cérémonie de sa réception. Hein. Potier va décéder donc va juste décéder un tout petit peu avant. Eugène Potier, hein, donc l'auteur de l'International. Potier l'a écrit donc pendant la répression, hein, juin 1871. Il était dans un grenier à Paris, donc il entendait donc les fusillades, bien sûr. En juin, c'était pas terminé, hein, c'était les exécutions sommaires, et donc il a écrit la Marseillaise. Les paroles de l'International sur l'air de la Marseillaise, hein, puisque Degetter ne écrira la musique donc de l'International comme on la connaît à l'heure actuelle. 6 mois après le décès donc d'Eugène Potier. Voilà. Je ferai une série d'émissions, donc je l'avais déjà fait, mais je la modifierai, enfin je l'enrichirai, dirons-nous, puisque il y a beaucoup plus de facilité à l'heure actuelle avec Internet pour retrouver donc différents documents. Voilà. Enfin, toujours est-il que c'est Émile Thierry Foch qui a travaillé donc pour le ralliement donc de la maçonnerie, tout au moins parisienne, à la Commune. notamment au niveau donc des des conciliations, et puis après au niveau des réunions, et puis ensuite aussi au niveau donc des essais de transmission donc vers la province. Alors évidemment, il y aura deux ballons qui seront envoyés pendant la commune, hein. Voilà, mais il y aura quand même des choses qui vont passer, ne serait-ce que par le moyen donc du chemin de fer, puisque la ligne n'était pas totalement totalement coupée. Voilà. Je vais arrêter là pour pour Émile Thierry Foc, qui donc lui a lancé donc cette demande d'amnistie plus d'état de siège en 1872. Voilà. Alors après, ben on va pas 10 jours 1872, on a Alphonse Karr donc qui publie une revue pamphlétaire, ça s'appelle La Guêpe. Et là dedans, il fustige Crémieux. Alors Crémieux, c'est pas celui qui a été fusillé, hein, c'est de la même famille, mais c'est pas lui. Hein. Et alors voilà ce que écrit Alphonse Karr. On m'assure, mon vieil ami, que vous vous engagez à demander l'amnistie pour les condamnés de la commune. Oui, l'amnistie pour les dupes, pour les faibles, pour les repentants. Mais à une condition, c'est qu'on enverra là-bas ceux de leurs chefs, de leurs enjôleurs, qui, plus lâches, ont su se tirer de la bagarre. Voilà ce qu'écrit Alphonse Karr. Les élections arrivent. Adolphe Thiers a des difficultés avec la gauche qui se divise en deux camps. Donc là, c'est manifeste. Les opportunistes qui sont contre toute amnistie et les radicaux qui exigent une amnistie générale immédiate. Aux élections de 1873, Charles de Rémusat est battu par un certain Désiré Baraudet. Et oui, on est à Lyon. Candidat radical lyonnais. Alors évidemment, le mot radical, c'est pas tout à fait le même sens qu'on lui donne à l'heure actuelle. Baraudet a fait donc de sa campagne électorale, il a pris le thème de l'amnistie. Et il va être élu donc contre Charles de Rémusat. En septembre, au sujet des déportés, Georges Perrin, député radical, va questionner l'amiral Dompierre, qui est le ministre de la Marine, donc en 1873, et donc ce ministre va lui répondre sur les déportés, les condamnés, ce sont tous des fainéants et des repris de justice. À l'automne 1874, Édouard Lecroix, ex-maire d'arrondissement de Paris, donc en 1870, va proposer un vœu d'amnistie. Il est soutenu par 19 députés, et ce vœu va être relayé donc par la presse. 20 décembre 1875, le député radical du Vaucluse, Alfred Naquet, qui fera passer la loi sur le divorce, va demander l'amnistie pleine et entière. Et il évoque les atrocités subies par les déportés. Donc cette demande va être repoussée tout de suite à main levée par l'Assemblée nationale. On discute même pas, tout le monde est contre. Enfin, la majorité est contre. Francis de Pressensé va nuancer en excluant de l'amnistie les chefs. Donc on tombe un petit peu dans l'histoire d'Alphonse Karr. Hein. Le 22 décembre, l'Assemblée repousse la discussion à 6 mois. On gagne du temps. Pour la campagne électorale de 1876, les républicains libéraux et les républicains radicaux vont inscrire l'amnistie dans leur programme. Même Dufort ou Jules Simon sont pour. Enfin, officiellement. Officieusement, ils vont tout faire par derrière pour être contre. Le 6 avril 1876, la revue Les Droits de l'Homme fait mention de la communication d'Arago sur les conditions de détention. Et oui, c'est que Rochefort s'est évadé et il publie donc ses impressions de voyage. Le journal L'Écho du 17 avril 1876 dénonce les campagnes calomnieuses menées par Le Figaro, Paris Journal, Le Gaulois, La Patrie, Le Pays. Donc on se rend compte que tout ça, ce sont des journaux réactionnaires ou nationalistes. Hein. Le Figaro paraît encore, mais bon, Le Gaulois, La Patrie, Le Pays, on voit à peu près ce que ça veut donner. Et donc, il couvre des pires forfaits les condamnés de la commune, à tel point que le journal Le 19e siècle va s'inquiéter des éventuelles vengeances des proscrits à leur retour. Et oui, il faut surtout pas les amnistier, parce que quand ils vont revenir, ils vont avoir qu'un but, c'est de se venger de ceux qui les ont condamnés. Donc ça, c'est encore un argument contre l'amnistie. Lecroix fait remarquer dans dans le journal Le Rappel que la constitution de 1875 est plus monarchique que républicaine. Gambetta commence à proposer une amnistie partielle, mais tout à fait partielle. Il craint la concurrence, c'est que Gambetta est très prudent. Il veut toujours passer pour un républicain, disons, radical. Il veut pas se faire doubler à gauche, alors qu'en fait, il est parfaitement opportuniste. Pour moi, il est parfaitement du centre. Victor Hugo publie une lettre du délégué de Paris au délégué des 36 000 communes de France. Délégué de Paris aux délégués des 36 000 communes de France. Donc là, les maires des 36 000 communes de France, il les nomme délégués, il les nomme pas maires, mais c'est que Victor Hugo n'est pas maire, donc il se considère délégué. Voilà. Et dans laquelle il écrit notamment « Électeurs des communes, Paris, la commune suprême, vous demande votre vote étant un décret de décréter par les significations de vos choix la fin des abus par l'avènement des vérités, la fin de la monarchie par la fédération des peuples, la fin de la guerre étrangère par l'arbitrage, la fin de la guerre civile par l'amnistie, la fin de la misère par la fin de l'ignorance. Paris vous demande la fermeture des plaies. » Alors, Gambetta, pratiquement, en juillet 1880, va un petit peu reprendre cette idée, de mettre la pierre tumulaire sur les crimes, les exactions de la commune. Évidemment, Victor Hugo l'a pas du tout écrit comme ça, mais on voit que Gambetta va piquer un petit peu dans tous les coins. Du 16 au 19 mai 1876, Clémenceau, Raspail, Naquet, Floquet, Lecroix vont défendre cette proposition. Ils la défendent vainement devant la Chambre. Il y aura 377 contre, 99 pour. Mais on voit que, 99, c'est quand même mieux que 40, c'est quand même mieux que 26. On voit que ça augmente. Lecroix fait remarquer qu'il manque 100 000 ouvriers qualifiés à Paris. Et oui, c'est l'argument donc qu'on a vu sous la plume de Lissagaray pour Belleville. Clémenceau demande une cessation des poursuites. Le 26 octobre, Gambetta fait un discours où il est toujours sélectif. Ouais, bon, ceux qui ont été condamnés à tort, on peut les amnistier. Par contre, les autres, pas question. MacMahon est prêt à partir par la foule lors d'une visite à Lyon. Oui, Lyon. Et oui, le 22 mai... Le Sénat repousse la proposition de Victor Hugo. Donc Victor Hugo a fait un grand discours autour de cela. Gambetta, toujours opportuniste, se tourne vers l'anticléricalisme à cette période. L'Église soutenant la restauration monarchiste de MacMahon. Et le 4 mai 1877, Gambetta dénonce la mainmise de l'Église sur les esprits et sur l'État. Alors donc c'est le cléricalisme, voilà l'ennemi. Mais il y a tout un discours autour de cela. Gambetta va trouver donc le combat contre l'anticléricalisme, parce qu'évidemment le combat pour l'amnistie, il y tient pas trop, le Gambetta. Et alors une partie du discours, depuis 30 ans, dans ce pays, on s'est habitué sous l'influence de doctrines lâches et molles, sous l'influence de sophismes, contre la puissance de l'État, contre le rôle de l'État, à prêter la main à tous les envahissements, à toutes les usurpations de l'esprit clérical. Nous en sommes arrivés à nous demander si l'État n'est pas maintenant dans l'Église, à l'encontre de la vérité des principes qui veut que l'Église soit dans l'État. Je ne fais que traduire les sentiments intimes du peuple de France en disant ce qu'en disait un jour mon ami Perra, et oui, encore Perra, de 1870. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Et oui, le cléricalisme, voilà l'ennemi. On le prête à Gambetta, mais on voit que Gambetta l'attribue donc à cet Alphonse Perra, républicain tout à fait opportuniste. Et alors Drummond va lancer en 1892 la libre parole. Et alors, comme par hasard, Drummond va détourner ce mot de Perra, repris par Gambetta, pour en faire le principal slogan donc de son journal, la libre parole, le judaïsme, voilà l'ennemi. Voilà. Aux élections du 14 octobre 1877, la gauche a encore progressé. Dans son livre, La Commune, que Louise Michel va faire publier en 1898, Louise Michel explique la position des déportés qui refusent de signer leur demande de grâce. Ils exigent donc une amnistie. Et voilà ce qu'écrit Louise Michel. L'extrême gauche demande au ministre Bayot pourquoi tant d'hommes honorables étaient exclus de l'amnistie. Bayot répondit que certains exclus avaient repoussé la grâce et revendiqué leur responsabilité. Pourquoi, répliqua Clémenceau, voulez-vous que ceux qui ont été frappés oublient les horreurs de la répression? Vous dites, nous n'oublions rien, vos adversaires se souviendront. Il avait raison, Clémenceau. Nous repoussions la grâce parce qu'il était de notre devoir de ne point abaisser la révolution pour laquelle Paris fut noyé de sang. Voilà, donc ça c'est Louise Michel qui écrit cela. Le 1er janvier 1878, MacMahon va accorder 25 grâces. Mais ça va pas le sauver du désastre électoral. Hein. Le 5 janvier, la gauche remporte la majorité au Sénat. Et selon le mot de Gambetta sur MacMahon, il doit se soumettre ou se démettre. MacMahon va démissionner. Il est remplacé par Jules Grévy. Et Waddington, premier président du Conseil, va proposer un système bâtard de grâce amnistie qui est repoussé. Alors, eh oui, on est dans cette sensibilité protestante. Hein. Le ministre de la Justice, qui s'appelle Le Royer, va attendre février 1879 pour faire voter un projet d'amnistie partielle qui s'appuie sur la grâce présidentielle. Donc, on voit qu'il reprend le projet de grâce amnistie de Waddington. Et là, le président donc du Conseil, Waddington, va déclarer « La République est assez forte pour être clémente, même à l'égard de ceux qui, dès ses débuts, avait compromis son existence, elle peut, sans trembler pour elle, renoncer aux garanties qu'elle avait trouvées dans la loi à l'égard du plus grand nombre de ceux qui ont participé à l'insurrection du 18 mars 1871. » Alors, on voit là, bah oui, il y a quand même bien deux républiques, hein, on se rend compte que là, hein, discours. Il y a ce discours donc de Victor Hugo hein, en faveur de l'amnistie, hein, donc ce discours du 28 février 1879 devant le Sénat, parce que Victor Hugo est sénateur, et donc c'est dans le cadre du débat sur la loi qui sera finalement adopté le 3 mars 1879. Alors il fait un discours assez court là, Victor Hugo, contrairement à celui qu'il avait tenu quelques années auparavant. « J'occuperai cette tribune peu d'instants. Tout ce qui pouvait être dit pour ou contre l'amnistie a été dit. Je n'ajouterai rien, je ne répéterai rien de ce que vous avez entendu. L'amnistie, c'est l'oubli. Il n'y a pas de loi, il n'y en a qu'une, la droiture. Vous êtes un gouvernement nouveau, établissez-vous par des actes considérables, que vos premiers pas soient décisifs. Soyez simples, fermes et dignes. Rendez aux vieux gouvernements le service de leur faire voir comment vous montez pendant qu'ils descendent. Enseignez-leur l'art de sortir des précipices. Quel précipice fut plus profond que le vôtre? Quelle sortie est plus éclatante? Continuez cette sortie admirable. Montrez comment un peuple magnanime s'est préféré à la haine, la fraternité, à la mort, la vie, à la guerre, la paix. Il est bon qu'après tant de luttes et d'angoisses et de travaux, une puissante nation sache prouver au monde qu'elle répond par la grandeur de ses actes, à la grandeur de ses institutions. Quel mal y aurait-il à ce qu'elle pût dire? La France a eu un moment terrible. Il y avait d'un côté la Commune, démolissant la magnifique fondation de 1793, l'unité nationale. Il y avait de l'autre côté trois monarchies et le pouvoir clérical. Ces forces obscures se sont livrées bataille. Vous êtes alors intervenu, vous avez saisi les deux forces et vous les avez brisées l'une sur l'autre et vous avez extrait la clémence, la vraie clémence, l'oubli. Et c'est ainsi que, dans l'ombre et dans la nuit, la République souveraine, la République toute-puissante, a su, du choc des deux blocs de ténèbres, faire jaillir la lumière. Applaudissements à gauche. Mouvement divers à droite, voilà, donc ça c'était au Sénat. Et alors, la campagne donc pour l'amnistie est utilisée par les radicaux comme un moyen de pression pour que la législation soit mise en conformité avec les principes républicains. Les radicaux plaident pour une république pluraliste, capable de faire cohabiter tous les courants de pensée, tous les programmes politiques. Certains mouvements sont sans doute contestables, excessifs, voire dangereux, mais il s'agit de désamorcer les révoltes en limitant les sujets de haine et de vengeance au lieu d'enfermer et d'interdire. Et alors, ce consensus entre conservateurs et républicain modéré, va empêcher tout débat officiel, et cela jusqu'en 1879. Alors, il y aura eu aussi cette révolte des Kanaks, hein, ça j'en parlerai, où certains veulent montrer, donc, condamnés, vont montrer que, bah, ils défendent l'idée de la République, hein, de cette République colonialiste, hein, répressive, et oui, notamment Amourou, hein, Louise Michel va être absolument contre, hein. Louise Michel, elle défendra donc les Kanaks, quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas si simple, hein. Et alors la loi va être votée à la Chambre par 343 voix contre 94. Au Sénat, il y aura 163 pour, 86 vont être contre. Les contre, bah, c'est essentiellement des monarchistes, voilà. 1200 condamnés donc pour avoir participé au mouvement communaliste vont rester emprisonnés ou en détention, donc dans les bagnes. C'est la loi du 3 mars 1879. En fait, elle n'a qu'un but, c'est de différer l'amnistie totale, hein, parce que c'est une espèce de grosse amnistie. Hein. Voilà ce que l'on peut lire, article 1er. L'amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes ou délits relatifs à des faits politiques qui ont été ou seront libérés ou qui ont été et seront graciés par le président de la République dans le délai de 3 mois après la promulgation de la présente loi. Voilà. Alors, évidemment, c'est en gros, et puis il y a aussi cette affaire que, bah, il faut demander pardon à la République du mal qu'on lui a fait, bah oui, 8 ans auparavant. Hein. Le 23 mai 1880, pour la première fois, une manifestation va être autorisée au mur des fédérés, donc pour l'anniversaire de la semaine sanglante. Le préfet de police Andrieux fait charger la police. Le conseil municipal de Paris, qui est socialiste radical, vote une motion. Le ministre est interpellé. Gambetta, qui est alors président de la Chambre, influence le vote des députés qui donne raison au gouvernement, donc sur cette répression, par 299 voix contre 28. Et puis il y a des élections, là, 20 juin, aux élections municipales. Trinquet, toujours déporté en Nouvelle-Calédonie, donc inéligible, car privé de ses droits civiques, est élu à Belleville. Mais Belleville, c'est la circonscription où Gambetta est député. Alors là, Gambetta prend peur, c'est que s'il n'est pas élu député, là il risque rien puisque l'autre n'est pas éligible. Mais bon, il va y avoir un problème. Donc Gambetta donc prend peur, s'il n'est pas élu député, bah, il perd sa place de député, mais surtout président de la Chambre et puis tout ce qui va derrière. Donc aussitôt, Gambetta remet l'amnistie à l'ordre du jour et change radicalement son discours. Et la Chambre va voter l'amnistie par 312 voix, donc contre seulement 136 qui sont contre cette amnistie. Et alors Gambetta, donc, partie de son discours, hein, parce qu'il est assez long, Gambetta donc répond aux députés du Gers, députés bonapartistes, Paul de Cassagnac, et oui, Paul de Cassagnac, donc qui est hostile à l'amnistie, évidemment, on s'en serait douté. Donc juste une phrase dans son très long discours de Gambetta, hein, il faut que vous fermiez le livre de ces 10 dernières années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune et que vous disiez à tous qu'il n'y a qu'une France et qu'une République. Voilà. Donc on voit que Gambetta, qui on lui octroie donc le bénéfice de l'amnistie pleine et entière, on voit de quelle façon il a considéré donc la Commune, hein, mettre une pierre tumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune. Eh bien, c'était l'évocation des partageux de la Commune avec, comme fil conducteur, Louise Michel. Là, c'était l'amnistie, hein, puisqu'on voit que pratiquement avant même que tombent les premières condamnations, il était question donc d'amnistie, c'est-à-dire de ne pas juger, hein, surtout pas juger ceux qui avaient participé à ces mouvements communalistes. Eh bien, oui, c'était donc une émission sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et je vais laisser les micros et le studio à l'émission Onde de choc. Voilà, cela jusqu'à 16h, hein, je crois. En attendant, bien, on va écouter La Canaille. La Canaille, eh bien, j'en suis. Alors là, c'est pas Gambetta qui la chante, hein, celle-là. Pas du tout. Voilà, je termine avec La Canaille.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souffrir rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille. Que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.